comme j'ai pas d'inspiration pré-générique.
La seule émission qui n'a pas de nom.
C'est l'émission qui n'a pas de nom, c'est bien. Parce que c'est dans tes oreilles. Cool. Hein. Bon, ça a pas de nom. Ça a pas de nom. Comment ça? Ça a pas de nom. Ça a pas de nom.
Bon, pas de nom.
Ça a pas de nom.
Ça a pas de nom. C'est n'importe quoi. Bon. C'est n'importe quoi, t'as pas de nom quand même. Hé, hey, oh, hein.
T'appelles papa.
Bonjour à tous, vous écoutez bien Radio Bip. Malheureusement, ce ne sont pas nos programmes normaux, c'est mon émission bénévole où je suis relou avec des hommes politiques. Elle revient 3 mois après la fin du monde. Comme d'habitude, bah, je vous explique ce que c'est la seule émission qui n'a pas de nom, c'est moi. Alexandro, simple connard qui touche 600 euros par mois, qui se permet de poser des questions à nos élus, l'élite de la nation, celle qui nous aide, nous abreuve de bons conseils et vote nos lois qui régissent nos vies. Et c'est magnifique ce que je dis là, je suis en train de tomber en pamoison pour moi-même. Il faut que ça dure longtemps ce truc. Alors là ça fait déjà une minute où vous vous sentez vraiment bien, vous avez envie de pleurer, mais il ne faut pas. Parce qu'on aura moult raisons de pleurer aujourd'hui, puisque j'aurais dû faire résonner la Marseillaise. On rentre très loin dans la représentativité électorale. Nous avons la personne qui nous représente à l'Assemblée, nous, personnes qui habitons la deuxième circonscription. Comme par hasard, Radio Bip se trouve dans la deuxième circonscription de Besançon, du Doubs. Tellement je suis bien informé. On va arrêter ces conneries parce que c'est même pas drôle, j'ai même pas raconté une vraie blague. Vous devez vous embêter et c'est pourquoi on va y passer directement à la présentation de notre invité. J'aurais dû m'habiller mieux que ça, j'ai mis juste une veste de jogging mais je suis presque rasé de près. Notre invité c'est monsieur le député de la deuxième circonscription du Doubs, monsieur Éric Alauzet, bonjour.
Bonjour, et sans cravate non plus.
Oui, sans cravate, c'est vrai. Parce que je me disais, avant, on vous avait reçu, vous étiez quand même un peu moins bien habillé que ça. Et vous avez mis un petit pull ou un petit polo, je ne me souviens plus exactement quand vous étiez venu. Et quand je vous voyais vous promener à Besançon, vous portiez plus souvent le costume cravate maintenant.
Hein. Ah oui, souvent. Je dors presque avec la cravate. Je ne l'avais pas porté depuis le service militaire et là, je ne la quitte plus.
Vous êtes obligé de porter
dans l'hémicycle. Non, c'est le seul endroit où on est obligé, c'est l'hémicycle.
Il y a un code vestimentaire ?
Ah oui, c'est le règlement. C'est le règlement, on peut pas. J'ai failli, d'ailleurs, tout au début, je suis arrivé un jour, j'avais oublié de la mettre, et je me suis fait arrêter par les huissiers qui m'ont tendu une cravate, puisqu'ils en ont quelques-unes en réserve pour les étourdis comme moi.
Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez venir torse nu avec une cravate aussi.
J'ai pas essayé, on va essayer la semaine prochaine.
Vous êtes désormais député, je vous avais reçu pendant la campagne des législatives. C'est peut-être un peu grâce à moi que vous avez été élu.
Je pense que c'est ça, les quelques voix qui m'ont permis de gagner, elles doivent être là.
Oui, ça a été très serré avec Jacques Grosperrin.
Je savais que ce serait serré et effectivement, le résultat n'a pas démenti.
Et Monsieur Grosperrin a fait appel de la décision. C'est un peu une attitude de mauvais perdant.
Disons que, bon, quand les scores sont très serrés, c'est cette bonne guerre pour celui qui a perdu d'essayer de faire annuler l'élection, de voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui pourrait l'annuler. Voilà.
Et vous l'auriez fait si c'était vous qui auriez un peu moins de voix que Monsieur Grosperrin ?
Je pense pas.
Très bien. Donc, on va vous présenter, hein, vous êtes toujours en fait conseiller municipal de Besançon, vous l'êtes toujours ?
Non, j'ai
démissionné. Vous avez démissionné ? Très bien. Vous êtes aussi conseiller général du Doubs, vous l'êtes
toujours ?
Alors,
donc je ne suis plus ni conseiller municipal, ni vice-président de la communauté d'agglomération, ni président du cyber, ni vice-président du conseil général du Doubs, mais je reste effectivement conseiller général du canton Est, où nous sommes ici d'ailleurs, Radio Bip sur le canton Est, jusqu'à la fin du mandat.
Pour vous, c'était important de démissionner de tous ces mandats ?
Ah bah oui, c'est important pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est ma façon de voir les choses. D'autre part, il y a des règles très strictes dans mon mouvement politique, où les règles sont bien plus exigeantes que ne l'est la loi.
Et il y a une histoire de points, mais vous auriez pu garder un ou deux mandats ?
Oui, bah c'est le cas, puisque je reste conseiller général. Mais, et puis c'est important aussi pour ne pas faire que ça. Et notamment, j'ai voulu garder une toute petite activité professionnelle.
Parce que vous êtes médecin.
Oui, je suis médecin libéral, donc j'ai un cabinet médical. Donc un cabinet médical tenu pendant plus de 25 ans, ça ne se ferme pas comme ça aussi facilement. Et surtout, ça ne se réouvre pas aussi facilement quand dans 4 ans, peut-être, je ne serai plus député. Je veux pouvoir retourner à la vie civile tranquillement. J'aurai 59 ans et ça peut être difficile de rouvrir un cabinet médical à 59 ans. Donc voilà, j'ai voulu garder une petite activité, puis ça me permet un équilibre aussi. Voilà.
Donc, vous avez gardé votre poste de conseiller général ?
Voilà, jusqu'à la fin du mandat.
Mais pourquoi vous n'avez pas envie de laisser la place à la jeunesse ?
À la fin du mandat.
Parce que du coup, c'est quand même un peu du cumul, ça. Enfin, même si, dans vos règles, c'est
des périodes transitoires. On est sur des élections qui se situent à des périodes intermédiaires. C'est-à-dire que là, on est au milieu, deux tiers du mandat du conseiller général. Donc, je termine ce mandat. C'est pas du cumul. Enfin, c'est pas du cumul. C'est
un petit peu, quoi.
Mais c'est pour terminer. C'est pour terminer le mandat. Mon suppléant n'est pas écologiste. Voilà. Et donc, je suis le seul écologiste au conseil général. Donc, en attendant que quelqu'un puisse prendre le relais lors des prochaines élections, je termine ce mandat.
Ah d'accord, c'est pour garder une présence écologiste au Conseil Général.
Voilà.
Même si vous n'avez pas énormément d'incidence, enfin un seul Conseil Général écologiste.
Je vais pas avoir à demander à ceux qui m'ont vu travailler depuis 4 ans au Conseil Général, si j'ai eu de l'influence ou pas.
Concernant votre activité professionnelle, je connais un de vos clients et il me dit que c'est beaucoup plus difficile hein, par contre de vous avoir maintenant.
Eh oui, vous savez, je pars le plus souvent le mardi matin à l'aube. Je rentre le plus souvent le jeudi en fin de journée, donc je suis 3 jours à Paris, et il m'arrive même de partir dès le lundi, de rentrer parfois le vendredi, même une ou deux fois le samedi, quand les discussions s'éternisent à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc en moyenne, je suis absent 3 jours de Besançon.
Et en tant qu'écologiste, je suppose que vous allez en train à l'Assemblée ?
Oh bah, même ceux qui ne sont pas écologistes, c'est tellement le plus facile et le plus évident. Voilà, on va tous en train. Même ceux qui ne sont pas écologistes.
Avec le magnifique TGV qui passe par la gare Patate.
Ah, je préférais que vous ne me parliez pas de ça, ça va m'énerver.
Parce que vous êtes contre, vous étiez contre cette gare d'Auxon.
Ouais, ça reste pour moi une plaie ouverte. Ouais.
Parce qu'on peut quand même le dire, bon, même si vous êtes député, vous avez un mandat national, on peut quand même toujours parler un peu des choses locales.
Bien entendu, puis il y a des liens d'ailleurs.
Il y a eu un référendum pour cette gare d'Auxon qui a dit non et ça s'est fait.
Oui. Alors... Il faut reconnaître que peut-être c'était pas aux seuls Byzantins qui ont voté lors de ce référendum de décider du destin d'un TGV qui concerne le département du Doubs, la région de Franche-Comté, l'Alsace, la Bourgogne, voilà. Hein, donc c'est pas anormal que malgré le référendum, on n'ait pas eu gain de cause. Parce qu'encore une fois, ça ne concernait pas que les Byzantins. Mmh. Mais c'est dommage quand même qu'on n'ait pas pu réfléchir... envisager l'autre scénario qui faisait effectivement passer au centre-ville de Besançon. Ça, certes, ça perdait un petit peu de temps, on perdait 10 minutes sur les trajets nord-sud, mais on voit bien aujourd'hui que sur Paris, ça ne change rien pour nous. Mais je ne veux pas raisonner que dans le Besançon-Paris, il y a d'autres trajets.
Et ça aurait donné une meilleure image de Besançon, parce que là, les gens, quand ils passent à Besançon en TGV, ils croient que Besançon, c'est une gare au milieu des champs.
C'est ce que vous dites, c'est un point sensible. Moi, je me souviens, quand les décisions ont été prises, qu'on siégeait au conseil régional, il y a qui dans une assemblée comme ça ? Il y a des élus qui prennent le TGV, il y a des chefs de service qui prennent le TGV, il y a des journalistes qui prennent le TGV, et le plus souvent d'ailleurs, ces gens-là, quand ils prennent le TGV, sont remboursés leurs billets, ils ne payent pas leurs billets. Et ces gens-là, malheureusement, ont un peu raisonné pour eux-mêmes, en se disant, bon, de toute façon, dès lors que j'habite pas au centre-ville, on peut plus se garer à la gare Viotte, c'est aussi bien d'aller à la gare extérieure. En plus, on a Jean-Pierre Chevènement, le maire de Dijon qui pousse pour une gare extérieure. Mais jamais ils ne pensaient que vont dire nos visiteurs. Et effectivement, quand on accueille ici à Besançon des chefs d'entreprise, des artistes, des touristes, et qu'ils arrivent à la gare d'Auxon, ils doivent se dire qu'ils arrivent dans une région de seconde catégorie, forcément.
Bon,
c'est extrêmement pénalisant pour l'image de notre ville. Je ne parle même pas des désagréments, parce qu'il faut absolument, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, bon, alors il y a les navettes, heureusement, ça coûte très cher au conseil régional, au passage, mais c'est quand même un peu compliqué tout ça.
Bon, en parlant de TGV, il y a... Le projet de TAV, la ligne à haute vitesse qui va à Turin,
Liria,
et qui suscite beaucoup de polémiques, on va dire,
et d'inquiétudes, oui.
Ça va détruire une partie du Val de Suse. Enfin, ça va entraîner des changements dans des régions sauvages, on va dire.
Alors, je pensais pas à la même chose. Alors.
Non, la TAV, comme on l'appelle.
D'accord.
Qui passe par Chambéry, crois.
Oui.
Et il y a une forte opposition de mouvements radicaux. Vous êtes au courant un peu du
sujet ? Non, pas en détail. Non.
Et après, on peut mettre ça dans tous les ce qu'appellent les mouvements libertaires et écologistes radicaux. les grands projets inutiles dans lesquels on peut mettre aussi l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Ce sujet, je pense que vous êtes peut-être un peu plus informé là-dessus.
Oui.
Vous êtes contre ?
Oui.
Le gouvernement, en tout cas, fait tout pour.
Oui.
Une énorme opposition qui se fait là-bas. Oui. Il y a eu des recours même en justice, puisque ça va supprimer toutes des zones humides.
Et il faut... C'est un des aspects du problème. Oui.
Il faut compenser.
Des zones humides, des zones agricoles, des zones qui ont un intérêt. Hein, les zones humides, c'est un intérêt pour la qualité de notre eau, les terres agricoles, je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi c'est utile. Voilà, dans une période où on manque d'argent public, où il faut sélectionner nos investissements avec beaucoup de précautions, et que ces investissements doivent s'inscrire dans les problématiques d'avenir, c'est-à-dire tenir compte de la raréfaction de l'énergie notamment. C'est-à-dire que demain, sans doute que les voyages en avion seront moins fréquents, on utilisera beaucoup plus l'informatique, les téléconférences, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mauvais projet.
Les détracteurs du projet disent qu'il n'y en a pas besoin, il y a déjà un aéroport à Nantes qui n'est pas utilisé à la totalité de sa capacité.
Oui.
Et vous, en tant que député, vous pouvez rien faire ? Vous pouvez faire quelque chose ?
Si, déjà en tant que député, on débat sur ces questions. Régulièrement, on pose des questions au ministre. On essaie d'entretenir le débat, de faire œuvre de pédagogie, de faire valoir nos arguments. Mais il faut reconnaître, on en a vu d'autres, des grands projets comme ça, quand ils sont lancés, c'est extrêmement difficile à arrêter. Comment on a eu du mal à arrêter le projet Superphénix ? Il a fallu une élection législative pour arrêter un projet, comme on a arrêté le Grand Canal de la même manière. C'est-à-dire que quand on a un grand débat national sur une élection nationale présidentielle, législative, on arrive à arrêter un grand projet. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et ce projet d'aéroport, en plus, c'est pas vraiment un projet public, puisque les profits vont être mis dans la poche de Vinci.
Ah oui, mais alors ça, on peut le dire sur tous les débats, on peut dire que les éoliennes, c'est des sociétés aussi d'investissement. Ça me semble pas un argument suffisant de le capitalisme. Après, c'est d'autres questions qui sont posées derrière ça. C'est où vont les profits des grandes entreprises. Mais c'est pas le débat de faut-il l'aménagement ou pas. Moi, vraiment, je mélange pas les deux débats.
D'accord. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, puisque votre collègue députée de la première circonscription, Barbara Romagnan, a décidé de publier, de rendre public l'utilisation de sa réserve parlementaire, c'est-à-dire une somme d'argent qui est dédiée pour financer des projets locaux, associatifs ou autres. Vous ne l'avez pas fait.
C'est une évidence qu'il faut les publier. D'ailleurs, je vous signale qu'au passage que c'est fait depuis longtemps par les membres du groupe des députés à l'Assemblée nationale des députés écologistes, qui l'ont déjà fait, et tous les membres du groupe écologiste à l'Assemblée nationale vont le faire. C'est une évidence pour nous, la question ne se pose même pas. Moi, j'ai simplement attendu d'avoir les retours, les assurances, les garanties de financement des différents ministères. Je ne veux pas publier et faire connaître à des associations, des communes, des subventions qu'au dernier moment, je serai obligé de supprimer parce que je n'aurai pas les garanties. Donc, j'attends d'avoir les assurances, mais c'est une totale évidence pour moi.
On peut connaître un peu quand même vos priorités, comment va être utilisé votre réserve parlementaire.
Donc, les choses se sont faites assez vite, puisqu'il a fallu boucler les choses pour le mois de septembre-octobre dernier. Je venais d'arriver, j'avais le recours. Donc, je n'ai pas pu mettre en place, je dirais, de ligne directrice quant à l'attribution des aides. Je vais le faire pour l'année prochaine. Je vais mettre en place un groupe de travail d'élus et de représentants associatifs pour qu'on donne du sens à cette enveloppe parlementaire, pour surtout éviter que ce soit le fait du prince ou le fait du clientélisme. Je vais absolument éviter ça. Comme je n'étais pas en situation de le faire, j'ai fait un peu comme je pouvais au début. Alors j'ai consacré un quart de cette enveloppe parlementaire à des aides à des associations de subsistance alimentaire.
D'accord.
Tout ce qui est secours catholique, banque alimentaire,
Resto
du cœur. Toutes. L'association protestante également, une autre association de confession musulmane. Donc voilà, dès lors qu'elle s'occupe d'aide alimentaire. Donc la moitié de mon enveloppe. Un quart a dû être consacré, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, à des petits projets communaux. Ça peut être une pompe à incendie, ça peut être... voilà. Et puis, il y a différentes associations de quartier, la MJC de Palante, la maison des jeunes de Clair-Soleil, voilà.
Très bien.
Mais tout ça sera évidemment public. C'est pas, voilà, je vous le dis, c'est une culture dans notre groupe politique de le faire.
En ce qui concerne l'aide alimentaire, on peut dire quand même que pour quelqu'un qui est écologiste, ça peut sembler... presque normal, puisque ça lutte déjà contre le gaspillage, puisque par exemple la banque alimentaire va faire des collectes dans ce qui va être jeté dans les supermarchés et autres. Oui.
Ah bah bien sûr. Bah c'est en plus, c'est des associations qui connaissent des difficultés importantes. Les aides européennes vont être diminuées. Cette fois, c'est décidé, malheureusement. C'est décidé. Ça avait été repoussé. Ça a été décidé. Bon, l'État français s'est engagé à compenser. Mais voilà, dans une période d'argent rare, c'est quand même pas simple. Donc, pour moi, c'était une évidence. Pour la plupart, ça leur a permis de s'équiper en frigo, en moyens de conservation divers et variés. C'est peut-être l'occasion de préciser que l'enveloppe parlementaire, il y a aussi un peu des règles. On ne l'attribue pas n'importe comment. La règle, c'est que ce soit des investissements ou des actions, des manifestations ponctuelles. En tout cas, ça ne peut pas venir financer du fonctionnement habituel. Si c'était le cas, il faudrait tous les ans apporter la même somme, ce qui n'est évidemment pas possible.
Les associations de quartier, pourquoi ? Enfin, ça semble logique, mais j'ai envie de vous entendre le dire.
Bah, je pense que dans une période où le délitement social est de plus en plus fort, où les individualismes s'expriment de plus en plus, où il y a de plus en plus de personnes en difficulté et isolées, c'est très très important de soutenir l'action dans les quartiers, des animations de quartier, des diverses activités, pour que les gens se retrouvent et gardent le fil et le lien entre eux.
On va passer à un autre sujet, un sujet un peu plus grave, on va dire, puisque vous faites partie d'Europe Écologie Les Verts, le mouvement politique qui est dans le gouvernement. Cette participation au gouvernement commence de plus en plus à être mise en cause au sein de votre mouvement.
Non.
Il y a des voix quand même qui se sont fait entendre, notamment j'ai entendu José Bové récemment. Vous êtes pour cette participation au gouvernement d'Europe Écologie Les Verts ?
On a fait un choix dans la difficulté. On sait que dans cette période économique, on va forcément prendre des décisions qui ne conviendront pas. Mais on a fait ce choix de participer au gouvernement et on le tiendra jusqu'au bout. En tout cas, je serai de ceux qui tiendront jusqu'au bout. Après, on fera les bilans, on fera la critique, on nous critiquera, mais on va jusqu'au bout. On est solide, on a nos valeurs, on est prêt à assumer des échecs. On est prêt à assumer des divergences avec le Parti Socialiste, mais on reste au gouvernail. Je pense que rien ne serait pire que d'entraîner des gens dans notre sillage à voter pour nous et de leur dire au bout de 6 mois, 1 an, écoutez, on n'est pas content de ce qu'on fait, on s'en va. Je pense que c'est pas, à la fois pas sérieux et ça montrerait une réelle fragilité. Il faut se battre à l'intérieur, même avec des frustrations, même avec des difficultés, il ne faut jamais lâcher prise.
Mais tout de même... Ce qui a été fait depuis le début du quinquennat de Hollande, il y a peu de choses qui vont dans le sens des écologistes. On peut prendre par exemple le nucléaire. Il s'était engagé à fermer 50% du parc nucléaire sur je ne sais plus combien d'années. La seule centrale qui risque de fermer, c'est celle de Fessenheim. Et encore, on a reporté la fermeture.
Pour l'instant, j'ai rien entendu sur cette question du nucléaire qui soit différent de ce qui a été annoncé pendant la campagne et qui soit écrit dans notre programme politique. Je n'ai pas entendu remettre en cause l'objectif à 2025 de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50%.
Mais ça c'est un peu... Ça veut dire qu'on ne va pas enfermer, puisque la part d'électricité, elle va augmenter. Donc on va pas fermer de centrales. Une centrale comme Fessenheim, elle commence à être
dangereuse. J'ai pas entendu qu'il soit remis en cause la fermeture de Fessenheim, certes à l'horizon 2016, mais vous savez, il y a une centrale qui est en fermeture là depuis un certain temps. Faut 8 ans, 10 ans pour fermer une centrale. C'est extrêmement long. Donc pour l'instant, l'objectif est tenu. Ce qui nous importe avant tout, nous écologistes, c'est de mener la transition énergétique et de mettre en place la fiscalité écologique. C'est ce sur quoi nous travaillons. La transition écologique, les débats sont en cours. D'ailleurs, j'ai un débat mardi ici en région, sur une émission de radio aussi mercredi, localement. Donc c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est-à-dire faire la preuve qu'on peut, et avec les économies d'énergie et en développant les énergies renouvelables, dessiner ce que sera l'énergie de demain et progressivement donner du sens et de la concrétisation à cet objectif de fermeture des centrales nucléaires. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, le fait d'annoncer la fermeture des centrales nucléaires nous stimule pour aller vers les énergies renouvelables, les économies d'énergie, mais après il faut concrètement les mettre en place pour confirmer qu'on va bien finir par fermer les centrales nucléaires.
Pour le moment... À part Fessenheim, on n'entend parler d'aucune fermeture
de centrale. Non, mais c'est normal. C'est normal. Il faut qu'on crédibilise notre capacité dans nos sociétés, en France, et pas la France toute seule d'ailleurs, dans nos sociétés occidentales, à faire la démonstration qu'on peut concrètement économiser de l'énergie et développer les énergies renouvelables. La fermeture des centrales nucléaires n'a de sens que si on arrive à atteindre ces objectifs. Sinon, on ne va pas remplacer les centrales nucléaires par du vent, justement. Mais par rien, quoi. Voilà. Donc, on se concentre là-dessus, à faire la preuve qu'on va effectivement diminuer de façon très importante nos consommations avec les plans bâtiment, par exemple. Ça, c'est, voilà comment on va faire la démonstration de notre capacité à changer les choses.
En parlant du bâtiment, les artisans du bâtiment ne sont pas heureux de la hausse de TVA.
Mais tout ce qu'on dit, quoi qu'on dise, ça, et ce qu'on va dire encore après, si on oublie à chaque... Toujours penser qu'on est dans cette crise économique. Toujours. Sinon, on discute hors sol, quoi. Voilà. Donc, dans une période où l'endettement est devenu insupportable, où la dépense publique se réduit, mais il faut faire attention à ne pas basculer dans l'austérité, on pourrait dire qu'on l'est déjà un peu, mais en tout cas, pas au point où en sont les pays du Sud. C'est dans ce contexte-là. Donc, effectivement, on a un projet de 500 000 rénovations de logements par an et de 500 000 logements en construction neufs par an, mais dans la période de crise économique, eh ben, les objectifs, ils sont difficiles à tenir. En tout cas, le cap, on le connaît. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Je ne sais pas jusqu'au bout. Ce sera peut-être en partie réalisé, mais on va dans cette direction-là.
Ce n'est pas une bonne excuse, la crise.
Je ne cherche pas d'excuse, je cherche simplement à expliquer.
Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, la crise, les coupes budgétaires, elles ne vont que dans un sens.
Non.
La taxation à
75%. Non, ce n'est pas vrai. Elles ne vont pas que dans un sens. Dans le projet de loi de finances, le budget 2013, et puis le budget rectificatif 2012 et 2013, on a augmenté les impôts de 27 milliards.
Mais c'est les classes moyennes
qui payent en général. C'est pas vrai. Par exemple, le reste,
c'est des coupes dans les services.
Non, c'est
publics.
Pas. Il faut regarder dans le détail ce qui a été fait. Le plafonnement pour enfants à charge à 2000 euros, qui est passé de 2300 à 2000 euros, c'est pas les classes moyennes, c'est les gens qui gagnent plus de 8000 euros par mois. Le barème de l'impôt qui a été gelé, il l'a pas été pour les deux classes inférieures, c'est pour 7 millions, 8 millions de personnes. Donc il faut regarder dans le détail ce qui s'est passé. Je ne dis pas que les classes moyennes ont été totalement épargnées. Je dis simplement que l'effort principal a été demandé aux classes supérieures, à la tranche à 45%. Il y a beaucoup de mesures qui touchent principalement les classes supérieures.
Le crédit d'impôt aux entreprises, c'est pas un cadeau pour les riches en pleine...
C'est un cadeau pour toutes les entreprises. J'aurais préféré, et j'ai porté des amendements, pour qu'on sélectionne les entreprises. Ça n'a pas été possible, je pense, à la fois pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, parce que les choses ne sont jamais ni totalement noires, ni totalement blanches. Les bonnes raisons, c'est que, sans doute... Le gouvernement a voulu aller très vite par rapport à cette crise économique et au chômage. Et pour aller très vite, il n'a pas pu entrer dans les nuances. Bon, ça, c'est, on va dire, la bonne raison. La mauvaise raison, c'est sans doute qu'il n'y a pas une volonté suffisante pour dire on sélectionne les entreprises qui sont sur les marchés internationaux, par exemple. C'était ça l'idée. En gros, l'idée, c'est notre compétitivité est affaiblie sur les marchés internationaux parce que... notre main-d'œuvre, soi-disant, enfin bref, il y a des coûts. Bon, si c'était le cas, on aurait fait ce crédit d'impôt sur les entreprises qui sont en relation avec la compétition internationale. On n'aurait pas fait, effectivement, un allègement de charges sur les cliniques privées, qui n'a aucun sens. Aucun sens. Donc je suis d'accord avec vous. Il aurait fallu mener cette sélection.
Et aucune contrepartie n'est demandée.
Il n'y a aucune contrepartie. Bon, donc, mon groupe politique s'est abstenu sur ce crédit d'impôt, mais en insistant sur deux choses, parce que ça, vous avez pointé une difficulté, un problème, mais il y en a encore un autre de problème. C'est qu'on le finance avec une augmentation de la TVA, la TVA qui est à 7% aujourd'hui, qui était à 5% historiquement, qui est à 7% et qui va passer à 10%. Et ça concerne le logement, justement, le logement public, la rénovation du logement, où on a de l'emploi local, ça concerne l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie. Donc, en plus des services qui sont écologiques, entre guillemets. Donc ça, c'est pas un bon truc. Donc, on l'a dénoncé. Donc, si vous voulez, nous, on est ressortis de CICE avec une abstention en disant deux choses. La première, il va falloir... moins solliciter la TVA de 7 à 10%. Et notamment, il faut épargner le logement de cette TVA à 10%. Et d'autre part, sur la sélectivité qui n'a pas été faite, comme vous l'avez dit, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une évaluation. C'est-à-dire que, effectivement, je ne vais pas parler de cadeaux aux entreprises. On fait une aide aux entreprises, pour ne pas être péjoratif. Mais c'est pour créer de l'emploi. C'est ça, notre but. Ce n'est pas pour que les entreprises soient florissantes. Ça, on s'en fout de ça, à la limite. Ce qui nous importe, c'est de l'emploi. Donc, moi, je souhaite que d'ici un an et demi, on évalue est-ce que ce crédit d'impôt compétitivité de l'emploi aura permis de créer de l'emploi ou pas. Si ce n'est pas le cas, moi je vais remonter au créneau très très vite, et mon groupe politique aussi. Voilà.
Déjà, ce crédit d'impôt aux entreprises, personnellement, je le vois comme un cadeau. Hein. Je pense que le mot n'est pas galvaudé. Et à côté, on enregistre aujourd'hui jour de la manifestation contre les accords nationaux interprofessionnels dits sur la sécurisation de l'emploi, qui n'ont pas été signés par la CGT et par EFO, qui représentent 49% des salariés syndiqués, qui risquent d'être mis en place. Donc c'est, maintenant, la balle est dans votre camp. À vous, vous avez rencontré ce matin les représentants syndicaux.
Une partie des représentants syndicaux, ceux donc, qui manifestaient.
On va expliquer quand même, parce qu'il y a eu peu de médiatisation autour de ces accords, dits de sécurisation de l'emploi. Le point qui dérange le plus les syndicalistes, c'est le fait qu'une entreprise qui se déclare financièrement en difficulté pourra baisser les salaires des salariés, enfin jusqu'au SMIC, hein, qui reste quand même un rempart assez efficace, et ou augmenter la durée de travail des salariés. Et s'ils ne sont pas contents, ils se font licencier, ils n'ont droit à rien du tout, pas de chômage.
Bon, vous pointez un vrai problème. Ce qui me préoccupe dans cet accord, c'est effectivement la possible baisse du salaire pour maintenir l'emploi, puisque le but de la loi, c'est de maintenir l'emploi. Alors, pour maintenir l'emploi, on va dire aux gens, si vous voulez rester là, vous acceptez une baisse de salaire. Ça, c'est inadmissible. De la même façon, la mobilité aussi, forcée, est un vrai problème. Donc, pour moi, c'est là le cœur du problème. C'est peut-être pas aussi net que ça. Ces accords sont soumis à des accords de groupe quand même. Il faut qu'il y ait 50% de votants pour accepter le groupe. Sinon, on retombe sur un accord, sur un licenciement type économique. Oui. Il a fait perdre des droits sociaux. Donc, il y a un vrai problème. Et moi, je vais m'engager avec mes amis dans mon groupe politique. On est en train d'auditionner à Paris l'ensemble des représentants des syndicats pour bien comprendre le problème, les problèmes des uns et des autres. Et nous sommes dans une logique d'amendement. Mais puisque vous faisiez le lien précédemment avec le CICE qui aurait constitué des cadeaux, j'aime pas bien ce terme, aux entreprises, et de l'autre côté, visseraient les salariés, ça traduit quoi tout ça? Ça traduit simplement la domination de l'économie libérale sur l'ensemble de nos pays. Et la gauche, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Quand elle est au pouvoir et qu'elle est réformiste, en tout cas, elle freine, elle essaie de limiter les dégâts.
D'après les syndicats, on m'a dit ce matin, des gens de la CGT m'ont dit, c'est pire que les accords compétitivité-emploi qui étaient prévus par Sarkozy.
Enfin, je crois que c'est une façon de communiquer, de dire les choses de cette façon-là. Peut-être pas quand même exagérer.
C'est très similaire à ce que voulait mettre en place Nicolas Sarkozy dans son programme pour 2017.
En tout cas, dans l'esprit, ça ressemble. On est sur la flexibilité. Voilà. Il faut absolument protéger les salariés. Je pense que si les entreprises doivent vivre, si une entreprise ne peut plus vivre parce que son produit n'est plus bon, qu'elle n'a plus les marchés, elle ne peut pas garder les gens. Simplement, il faut protéger les gens. Et c'est ça qui compte, c'est ce qu'essaye de faire cet accord, c'est-à-dire c'est de les protéger. Alors ils les protègent sans doute pas bien, et nous allons nous faire des amendements pour qu'ils soient mieux protégés.
Il y a d'autres points qui sont très discutables dans ces accords. Dans l'État, vous les votez tels qu'ils sont écrits?
Non, on ne vote pas dans l'État tel qu'il est.
Parce qu'il y a un autre, d'autres points, il y a un nouveau type de contrat, enfin qui existe déjà, mais qui va s'étendre plus largement, qui est le CD2I, contrat à durée indéterminée, intermittent, je crois, c'est ça, qui va dans ce sens de la flexibilité, c'est-à-dire que on annualise un temps partiel, et normalement, quand on a un temps partiel qui va changer au milieu d'une année, on a le droit au chômage. Les personnes qui auront ce contrat n'auront plus le droit au chômage. Enfin, tout va dans le sens du patronat.
On ne va pas pouvoir, dans ces économies européennes qui sont en perdition, qui excluent, et tous les jours un peu plus de personnes, continuer dans une logique de réparation. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas avoir toujours plus de gens au RSA, toujours plus de gens au chômage. Ce n'est pas possible. Donc, le gouvernement, sa priorité absolue, et là-dessus je suis à 100%, notre obsession, c'est de tout faire pour créer de l'emploi. Alors, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de réussite, les contrats de génération, pour mettre des jeunes au boulot aux côtés des anciens, les emplois d'avenir, pour mettre des jeunes très éloignés de l'emploi aussi en situation de travail,
qui sont rien de très différent par rapport au CAE, CEI qui existent déjà.
C'est radicalement différent. En quoi c'est différent? Pour un point majeur, c'est que c'est un temps plein avec un SMIC. Et c'est le minimum pour vivre. Alors que tous les contrats qu'on a vus depuis des années, c'est toujours des temps partiels à 20 heures avec 600 euros. On peut rien faire, même pas se louer un appart. Donc ça change tout.
Dans le programme,
ça change radicalement.
Dans le programme d'Europe Écologie Les Verts aux élections présidentielles, il était prévu une forte baisse du temps de travail pour répartir.
Ça n'a pas échappé que la candidate aux élections présidentielles des Verts a fait 2%.
Oui.
Donc,
vous faites partie de ce parti, vous l'avez soutenu.
Voilà. Donc je ne vois pas comment, avec 2% de citoyens qui me soutiennent, je pourrais mettre en place une mesure pour laquelle ne sont pas favorables 98% des gens. Donc si j'étais le chef du village et le président de la République, je le mettrais en place. Dans l'État, je ne vois pas bien comment je peux faire. Donc je reviens à notre obsession qui est vraiment de créer de l'emploi. Les emplois d'avenir, c'est des temps pleins, c'est 3 ans, donc ça n'a rien à voir avec les contrats antérieurs. Les contrats de génération également. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, on en a discuté avec ses travers. On verra s'il crée de l'emploi ou pas. Tout est fait. Notre obsession, c'est de remettre des gens en situation d'emploi, de travail et de revenus pour éviter de se trouver dans cette situation infernale et cette impasse où on ne pourra pas venir au secours des gens qui perdent leur emploi avec l'argent public qui est de plus en plus rare. Je pense que la vraie question de tout ça, j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est l'économie libérale qui fait que on s'est endetté à cause de l'économie libérale et qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire la dépense publique de façon drastique. Et on est sur la ligne de crête entre les deux. C'est-à-dire qu'on essaye, et c'est la vertu de la gauche, d'aller solliciter les gens les plus favorisés à travers l'impôt. On l'a fait, on est allé chercher 27 milliards là, d'impôts nouveaux. La droite était contre. Il y a une vraie différence entre la droite et la gauche. Il y a une partie des gens modestes qui ont contribué à ces impôts, mais c'est principalement les gens favorisés. En théorie, il faudra aller chercher 90 milliards. On est à 27-30. Mais c'est colossal d'aller chercher l'impôt. On ébranle la société en allant chercher de l'impôt comme ça. On voit bien qu'on ne peut plus réduire la dépense publique. Donc, il n'y a plus qu'une solution. Il n'y a plus qu'une solution. C'est lutter contre l'évasion fiscale. C'est le seul endroit, à mon avis, où il y a à aller chercher de l'argent pour éviter la catastrophe.
Il y a un autre endroit où aller chercher de l'argent. Il y avait une idée de 75% d'impôt qui a été... Et le Conseil constitutionnel ne l'a pas validé, 75% pour les millionnaires, je ne sais plus si c'était au mois ou à l'an. On a quand même l'impression, enfin, je parle en mon nom, je pense qu'il y a au moins une ou deux personnes qui doivent penser comme moi, que l'impôt, il est pas pris à ceux qui ont de l'argent.
Non, mais attends,
on donne des crédits d'impôt au patron, les 75% ça passe pas.
Non mais attendez, 75% c'est une mesure parmi beaucoup d'autres. Toutes les autres dont je vous ai parlé tout à l'heure, la déduction fiscale pour enfants à charge, qui était le plafond était à 2300, était descendu à 2000. Les niches fiscales ont été plafonnées à 10 000 euros. Il y a eu beaucoup de mesures qui font que les gens qui ont de l'argent payent sensiblement plus d'impôts en 2013 qu'en 2012. Donc, il faut regarder les choses objectivement. Nous voudrions aller beaucoup plus loin, mais je peux vous dire qu'avec ce qu'on a fait là, on a déjà eu des critiques, des tombereaux de critiques. Que voilà, c'était le matraquage fiscal, etc. Donc, il faut entendre ça aussi. Hein. Donc, on va aussi toucher des limites à un moment donné. Quant à l'impôt sur la fortune, c'était une mesure parmi d'autres. Elle rapportait 300 millions d'euros.
Mais elle était symboliquement mais forte. Hein.
La gauche l'a mise en place, elle a été annulée par le Conseil constitutionnel au titre qu'elle n'est pas constitutionnelle. Donc, il faut l'entendre, ça. Si ce n'est pas constitutionnel, parce qu'effectivement, au lieu de taxer un ménage, comme on le fait habituellement, on taxait des personnes. Voilà, ce n'est pas constitutionnel. Donc, le gouvernement réfléchit à une autre mesure. Ce serait de moi, je remettrais une tranche d'impôt à 50%, en complément de celle qui a été ajoutée à 45%, et je la laisserais définitivement. Parce que pour moi, l'histoire des 75%, c'était symbolique, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Parce que ça touchait peu de ménages, ça rapportait relativement peu d'argent, et c'était transitoire. Moi, ce n'est pas structurel, ça ne m'intéresse pas. Je préférais une tranche à 50%, qui touchera beaucoup plus de ménages, parce que le seuil, du coup, on peut le mettre à 500 000 euros au lieu de le mettre à 1 million d'euros. Donc, ça toucherait beaucoup plus de ménages et ce serait pérenne. Voilà. Bon, y a plein de boulot, mais je peux vous dire que la gauche, elle s'y attelle et qu'elle se prend des coups en retour, parce qu'on a augmenté les impôts. La droite était contre. Il y a une vraie différence.
Vous nous disiez que la priorité, c'était l'emploi. Or, dans la fonction publique, ça n'a pas forcément l'air d'être la priorité, puisque même si la RGPP s'est finie, le nombre de fonctionnaires... Enfin, si la RGPP continuait, ce serait pareil, on va dire. Il y a quelques ministères, on a dit ceux-là, quelques postes de fonctionnaires, on a dit ceux-là, on les préserve. Mais derrière, en nombre de fonctionnaires qui partent à la retraite, qui ne sont pas renouvelés, c'est équivalent à ce qui se faisait avec la révision générale des politiques publiques mise en place par la droite.
Oui, c'est vrai. Donc vous l'avez dit, il y a quand même des secteurs qui ont été privilégiés, l'éducation, la police, la justice. Du coup, on peut penser que ça fait porter une charge plus importante sur les autres. Bon, c'est toute la question de la dépense publique en général qui porte sur des postes, mais aussi sur d'autres éléments. Mais les postes, c'est les plus visibles. Moi, j'ai suggéré à la commission des finances qu'on regarde au bout du compte, puisque tout ça est censé être fait pour réduire la dette, pour relancer notre économie et pour créer de l'emploi. Il faudra qu'on fasse quand même le bilan si en faisant des économies, et notamment sur les postes, et notamment en réduisant des postes, est-ce qu'on en crée au moins autant du côté du privé ? Parce que tout ça, ça reste à être évalué, comme on dit. Est-ce que c'est efficace en termes de création d'emplois ? J'en suis pas du tout sûr. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller plus loin, ou en tout cas, il faut être... Je ne vais pas dire ça parce que forcément, on va aller plus loin. Mais en tout cas, il faut faire attention à ne pas provoquer de l'austérité. C'est quand même la menace qui nous guette. Il faut faire très, très attention. Mais il faut réduire la dette. Je ne suis pas de celles et ceux qui disent « c'est pas grave, la dette, il n'y a qu'à faire payer les riches. » Mais non, mais il faut trouver le moyen de faire payer les riches. Et c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'aller travailler sur l'évasion fiscale. Parce que je pense que c'est plus efficace que sur l'impôt. Si vous voulez, il y a une forme d'impopularité progressive, y compris dans les classes moyennes, contre l'augmentation de l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas baisser les dépenses parce qu'on est à l'os et qu'on a besoin de nos services publics. C'est de la solidarité. On peut encore augmenter les impôts chez les plus favorisés, mais ce n'est pas facile. Il y a de la fuite, les gens partent à l'étranger, etc. Et donc, il faut vraiment qu'au niveau de la France et surtout au niveau de l'Europe, on travaille sur cette évasion fiscale. Parce que là, c'est colossal. C'est en dizaines de milliards d'euros. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut ne pas trop augmenter les impôts pour les classes moyennes et ne pas trop réduire la... Mais vous voyez, le c'est colossal comme chantier. C'est très, très difficile.
Il y a quelque chose qui se fait aux États-Unis. Les Américains, même qui n'habitent pas aux États-Unis, payent leurs impôts aux États-Unis.
Oui, mais en France aussi, ça s'appelle l'exit tax. Mais elle existe déjà. Et d'ailleurs, pour tout dire, elle a même été mise en place par le précédent gouvernement de droite. Donc, comme quoi. Mais c'est que le début. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais vous savez, il y a des choses qui se passent quand même. Moi, je fais référence à l'amendement que j'ai fait voter sur les paradis fiscaux. On voit bien que ça bouge. Et aujourd'hui, j'entends que dans les prochaines directives européennes, on en parle. Et on dit au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que les banques fassent la transparence sur leurs bénéfices. Enfin, sur leurs activités, on va dire plus exactement, dans les filiales où on ne paye pas d'impôts, quoi, en gros. On fait de la, voilà. Et donc, je sens que ça bouge. On a parlé des bonus, qu'il y a des traders, qu'il y a des limités. Donc voilà, c'est à tout ça qu'il faut travailler. C'est colossal comme chantier.
Et vous voulez nous faire un peu de pédagogie là, sur la réforme, c'est une,
la réforme bancaire.
Une réforme bancaire, oui.
Alors là aussi...
Vous êtes l'un des artisans,
enfin, un des acteurs, artisan ouais. Peut-être pas, mais un des acteurs. Oui, je me suis beaucoup investi sur ce dossier parce que je siège à la commission des finances, donc c'est un sujet qui m'échoit naturellement. C'est un sujet là aussi qui a fait beaucoup les banques, alors peut-être un peu moins, parce qu'il est peut-être un peu moins populaire que l'accord interprofessionnel ou le crédit d'impôt, compétitivité emploi. Mais là aussi, on peut faire le coup du verre à moitié plein, à moitié vide, parce que là aussi, on peut exprimer que par rapport à ce que chacun avait entendu du président de la République, au Bourget, dans sa campagne,
il devait y avoir
mon
une
ennemi, n'a pas de visage, la finance, etc. Et donc chacun, alors de bonne ou mauvaise foi, avait compris qu'on allait en fait prendre une banque, la couper en deux, et puis c'est comme deux entreprises finalement, et avoir une banque qu'on appelle de commerce, où vous mettez vos économies, ça sert à financer l'économie justement, et puis une autre où on aurait mis les activités spéculatives. Bon, c'est pas le choix qui a été fait, c'est une séparation moins nette, qui s'appelle une filialisation. Bon, déjà ça, c'est critiqué. Mais il y a une filialisation. Ensuite, ce qui a été critiqué, c'est le fait que ce qu'on met dans cette filiale ne représente qu'une petite partie de l'activité des banques, 1%. Mais il faut quand même savoir que ce 1%, avant la crise, il représentait 20%. C'est-à-dire toutes les activités que les banques spéculatives, que les banques réalisaient avec leur propre argent, pas celui de leurs clients, mais leur propre argent, ça représentait 15 à 20% de leurs fonds. Et avec cet argent-là, ils jouaient sur les marchés internationaux pour spéculer, pour gagner de l'argent. Donc eux-mêmes, à cause de la crise, eux-mêmes, c'est une vertu du marché peut-être, on réduit cette part d'activité à 1%. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui ça représente qu'un pour cent, mais rien ne nous garantit que demain ils vont pas recommencer. Donc c'est quand même important de cantonner, de mettre à part ce 1%.
Et pourquoi
on a essayé au Parlement, pardon, faute de séparation au sens strict, faute de mettre des barbelés dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois pour que la banque mère ne donne pas trop de capitaux à la filiale qui prend des risques, et que en cas de problème de la filiale, celle-ci n'aille pas exagérément pomper de l'argent dans la banque mère et finalement auprès du contribuable, ce qui s'est passé en 2008. Donc nous, les parlementaires, on s'est évertués à mettre des barbelés. Bon, c'est pas aussi étanche que s'il y avait deux entités. Je vais vous dire pourquoi ce choix-là a été fait. Et puis, autre amendement important qu'on a apporté, donc c'est moi qui l'ai porté au nom des écologistes, c'est effectivement une obligation de transparence pour les banques. Transparence sur leurs filiales, c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation dorénavant, pour tous les pays au monde, pour toutes les filiales dans tous les pays au monde, de communiquer sur les effectifs qu'elles ont dans leurs filiales et leur chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, en réalité, les filiales ne sont que des boîtes aux lettres. Il y a une île, je crois que c'est les îles Vierges, où il y a 30 fois plus de boîtes aux lettres que d'habitants. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est parce que derrière, ce n'est pas seulement les paradis fiscaux, c'est l'évasion fiscale. Une société qui fait des bénéfices dans un pays, elle ne veut pas payer les impôts du pays, en France notamment, puisqu'elle a une fiscalité correcte. Et pour ne pas les payer, elle trouve des prestataires dans des pays où on ne paye pas d'impôts. Ça peut être le Luxembourg, ça peut être Monaco, hein, où elle paye des services. Alors souvent, c'est je te vends un logo, je te vends une prestation juridique, une prestation financière. Et il y a beaucoup d'argent comme ça qui, au lieu d'être imposé en France, est imposé dans des pays où on paye très peu d'impôts. Et donc, et parfois, ce ne sont que des boîtes aux lettres, justement, puisque le gars, il peut être sur son ordinateur à New York, avoir une adresse aux îles Vierges, et puis il fait une activité qui rapporte de l'argent et qui est imposée aux îles Vierges et qui n'est pas imposée, du coup. Et donc, là, on va voir où il y a des boîtes aux lettres, où il y a uniquement des boîtes aux lettres. S'il y a un chiffre d'affaires et qu'il n'y a pas de personnel, voilà. Et puis, on compte bien sur les médias pour le relayer en temps utile. Par contre, on n'a pas obtenu la partie sur les revenus des banques, le bénéfice notamment, et les impôts, c'est ça. Le bénéfice et les impôts payés. Donc ça ne nous permet pas d'aller vérifier s'il y a de l'évasion fiscale. Mais c'est une première étape. C'est une première étape. Et c'est hyper important d'aller travailler sur cette évasion fiscale. Il y a deux groupes dans la commission finance, un sur l'évasion fiscale, un sur les paradis fiscaux, pour empoigner cette question qui est majeure. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
Non, mais il faut expliquer. Donc, pas de séparation.
Ah oui, je vous ai pas dit.
Pourquoi pas de séparation ?
Alors, il faut savoir que la France est quand même, au bout du compte, malgré ce qu'on dit, le premier pays au monde à opérer cette séparation, pas totale, mais malgré tout.
Aux États-Unis, ils avaient essayé ?
Mais non, ils sont en cours de réflexion, comme les Anglais, c'est la loi, en Volcker. En Angleterre. En Angleterre aussi, ils ont un projet, mais ils le travaillent. Mais les seuls qui aient voté une loi pour l'instant, ce sont les Français. Donc, la difficulté, c'est que beaucoup d'opérations menées par les banques sont difficiles à identifier comme étant des actions spéculatives ou pas. Je vous donne un exemple. Une entreprise vend ou achète des voitures, des Airbus, etc., avec un pays étranger. Il y a des mouvements de fonds, donc la banque est sollicitée. Mais comme c'est vendu en dollars et que ça prend un peu de temps, le cours du dollar peut varier et au bout du compte, le prix à la fin n'est pas forcément le prix qui était au départ. Donc pour se couvrir contre des changements de cours, il y a des produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, pour se protéger contre les changements de cours. Eh bien, ce type, pas le prêt que la société fait à la banque, mais la couverture par rapport à ces taux de change, est un produit dérivé et peut-être considéré comme un produit spéculatif. Mais elle est au service de la protection du client de la banque. Donc ça, c'est le plus simple. Mais il y a beaucoup de produits comme ça qu'on a du mal à identifier comme étant des produits au service de l'économie réelle ou au produit de la spéculation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un amendement qui a renvoyé au ministre la possibilité d'étudier plus en détail cette affaire-là pour séparer un peu plus d'activités. Mais on voit bien qu'il y a une intrication, une imbrication entre les activités habituelles de la banque, classique, historique, marché de commerce, et les activités spéculatives. C'est une des raisons. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. On a expliqué aussi que nos banques, nos quatre banques françaises, et quatre grosses banques françaises, avaient un avantage concurrentiel par rapport à d'autres banques d'autres pays et qu'elle le devait au fait de mélanger ces deux activités. Voilà parmi les raisons qui ont conduit à prendre cette décision en France. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et si demain l'Europe avance, et l'Europe est en train d'avancer sur le rapport Liikanen, on pourra poursuivre. C'est comme ça que j'ai conclu moi mon intervention en votant pour cette loi, mais en disant au ministre déjà ce qu'on a fait sur les paradis fiscaux, eh ben vous allez pouvoir vous en servir au niveau de l'Europe pour faire avancer les autres pays européens, et c'est effectivement ce qui est en train de se passer puisqu'une directive est en préparation, et que ce n'était pas la fin de l'histoire. On aurait à revenir sur cette affaire-là.
Et Quand vous commencez à travailler sur des lois comme ça, vous avez des pressions ?
Alors, j'en ai pas eu directement, moi, des banques. Mais je sais que le gouvernement en a eu, et le ministre en a eu. Je pense qu'ils ont estimé que faire pression au niveau d'un petit député, ça ne servait pas à grand-chose, et qu'il valait mieux... Puisque la loi était écrite, donc les banquiers en connaissaient le contenu. Ce qu'ils cherchaient à éviter, c'est qu'elle soit trop profondément modifiée par les parlementaires. Donc le meilleur moyen d'éviter qu'elle soit modifiée, c'est que le ministre mette un veto aux amendements. Donc c'est plus efficace pour eux d'aller voir le ministre pour leur dire « Non, là, vous nous mettez en danger. Vous mettez en danger nos 400 000 salariés. » Parce que c'est comme ça que ça se joue. Hein. Voilà, c'est chantage à l'emploi. Chantage. Non, quand je dis chantage, je utilise même vous quand vous utilisiez cadeau au patron. Je ne vais pas utiliser chantage.
Il faut être mais mesuré argument, quand on est député. Hein.
Argument. Argument pour dire « On menace des emplois. Oui, puis il faut... » Bon, voilà, je ne vais pas toujours faire des procès d'intention aux gens.
Mais un autre volet de l'actualité que je voulais aborder, puisque vous êtes député, vous n'avez pas voté pour ça, il n'y a pas eu de décision des parlementaires, mais l'intervention qu'il y a eu au Mali, enfin qui est toujours en cours, personnellement,
on l'a soutenu,
pensez, quoi.
Mon groupe l'a soutenu.
Vous l'avez soutenu, pourquoi ? Parce que quand même, quel est l'intérêt de la France d'aller dans ces anciennes colonies pour y faire régner une loi qui est la sienne ?
On l'a soutenu parce que le président du Mali a fait appel à la France.
Un président du Mali qui
très contestable et contesté, qui met les Touaregs sous le joug de son autorité, qui est largement critiquable, mais bon, on est d'accord. Il y a quand même des mouvements islamistes extrêmement dangereux qui risquaient de s'installer dans toute cette partie de l'Afrique.
Et c'est pas juste pour protéger les intérêts français, notamment le nucléaire au Niger,
dans
au
le pays
Mali,
voisin. Dans le pays voisin.
Enfin, le nucléaire, l'uranium, je veux dire.
L'uranium, oui. Ça peut être une partie de la réponse.
En tant qu'écologiste, quand même, c'est moyen de cautionner ça, non ? Enfin, des interventions pour protéger nos intérêts en uranium.
Oui, non, mais attendez, c'est moyen de cautionner ça si ce que vous disiez était avéré. C'est oui. Une hypothèse. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je ne dis pas que vous en avez la certitude. Qu'on fait ça uniquement pour aller protéger nos mines d'uranium. Enfin, nos mines. Les mines d'uranium. Je suis loin
d'en
parler.
Et d'autres intérêts industriels français en Afrique.
Mais est-ce que l'un empêche l'autre ? Est-ce que le totalitarisme, est-ce que comment dire,
je le totalitarisme,
qu'il soit religieux ou qu'il soit autre, ne doit pas être combattu sous prétexte qu'on a des intérêts économiques dans ces pays-là.
Il y a d'autres endroits où il y a des islamistes radicaux. Bon, c'est sûr, il n'y a pas d'otages français, mais bon, s'il y a des otages français, c'est en général des employés d'Areva ou des barbouzes. Des barbouzes.
Moi, je pense qu'il fallait y aller, que c'était une décision grave. Hein, et je pense que le président de la République s'est retrouvé tout seul face à cette décision, quand il a appris quelques jours après, d'ailleurs, qu'un premier soldat... un jeune de notre département était mort. Je pense qu'il a dû peser la lourdeur de sa décision. Mais voilà, moi j'ai l'intime conviction qu'il fallait réagir à ce moment-là. On n'y va pas sur tous les conflits.
Vous êtes pour la guerre, vous êtes pour l'armement.
Non, les écologistes sont contre le nucléaire militaire. On ne peut pas être pacifiste naïf non plus.
Le pacifiste pas naïf, il va faire la guerre.
Bon, on peut dire que je ne suis pas pacifiste, ça ne me gênera pas de dire que je ne suis pas pacifiste.
Parce que...
Je suis pour la non-violence, mais je pense qu'il y a des moments où il faut dire stop. Voilà. Et là, l'intégrisme doit être combattu. Et là, l'intégrisme menaçait non seulement l'Afrique, mais dans cette partie de l'Afrique qui n'est pas si éloignée de l'Europe, je pense qu'il fallait mettre des barrières.
L'islamisme a été cautionné en Libye, il a même été aidé. L'islamisme a été aidé
On a vendu des armes parfois. Et, ouais. C'est le sujet difficile. Je n'ai pas la prétention sur ce sujet-là d'avoir raison. Mais je ne veux pas être caricaturé non plus. Et je veux dire que si on peut avoir des doutes sur l'intérêt de l'intervention, je pense que personne ne peut avoir de certitude sur le fait qu'il ne fallait pas y aller.
D'accord, c'est votre point de vue et on est là pour l'écouter. Quelque chose sur lequel vous aurez peut-être plus d'incidence puisque vous voterez forcément cette loi ou non, qui est la loi Fioraso, Madame Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur, qui est en train de mettre en place une loi qui fait beaucoup débat dans les universités, que ce soit chez les étudiants, chez les professeurs et aussi chez les personnels, puisqu'elle ne remet aucunement en cause l'autonomie qui a été mise en place par la LRU, qui était combattue d'ailleurs... peut-être pas forcément par l'EPS, mais peut-être par ELV, non ? L'autonomie des universités.
En partie, oui. C'est pas le sujet que je connais le mieux, donc je vais pas vous apporter beaucoup de réponses. C'est un sujet qu'il faut que je travaille encore. En plus, on peut pas tout suivre à l'Assemblée nationale. En tout cas, on peut pas être pointu sur tous les sujets. On est obligé.
On peut avoir un avis quand même.
On peut avoir un avis, mais quand c'est un avis qui est pas très éclairé, il a relativement peu d'intérêt. Voilà. Donc, je sais qu'il y a de fortes inquiétudes. Des mécontentements. J'ai plus suivi la loi scolaire et sur les rythmes scolaires que celle-là, parce qu'elle était plus d'actualité. Voilà, donc je vais être honnête avec vous. J'ai pas aujourd'hui suffisamment, j'ai demandé à certains de mes amis de me documenter sur la question. J'ai pas suffisamment d'éléments objectifs pour avoir un avis pertinent aujourd'hui.
Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a dit, puisque c'est mon travail d'aller voir les personnes qui luttent en général. Et on m'a expliqué que tout d'abord, les financements publics ont une part beaucoup moins importante et donc les financements en général sont moins, enfin il y a des budgets moins importants dans les universités, ce qui entraîne notamment au Havre une vétusté des locaux qui sont totalement invivables. Même à Besançon il y a des amphis qui prennent l'eau. Ça c'est dû au budget et au fait que l'État mette moins d'argent dans les universités. Il y a aussi des profs en moins. Ils sont maintenant 40 dans les TD à la place d'être 15.
D'accord. Si on reste sur des choses assez générales comme celle-là, c'est évident que je connais bien ces deux problèmes, qui sont que l'université, comme d'ailleurs les autres secteurs qui ne sont pas les secteurs privilégiés dont on a parlé tout à l'heure, l'éducation. Encore que là, on y est un peu, mais pas sur la partie recherche en tout cas. La justice et la police, partout, il y a des coupes budgétaires importantes. Donc forcément, ça se traduit par quoi ? Par les deux éléments que vous avez notés, c'est-à-dire effectivement, alors qu'on sait que notre patrimoine est déjà vétuste, que même en période florissante, d'économie florissante, il n'a pas toujours été bien entretenu, et qu'il se dégrade et qu'on n'a pas les moyens pour le restaurer, que les étudiants travaillent parfois dans de mauvaises conditions. En plus, je peux le dire assez facilement en tant qu'écologiste, des déperditions énergétiques colossales, et qu'effectivement au niveau des personnels également, là aussi il y a des restrictions et des moyens humains qui sont insuffisants. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen, on revient toujours à la même question, d'aller chercher des nouvelles recettes pour l'État, je ne vois pas comment on règle et ce problème d'université comme les autres problèmes. Donc est-ce qu'on trouve une majorité dans ce pays, mais surtout en Occident, pour... contrecarrer le libéralisme et faire en sorte que les richesses qui sont produites dans ce pays ne partent pas à l'autre bout du monde et dans quelques poches qui accaparent les richesses. Voilà, on en revient malheureusement toujours à la même question, toujours et toujours encore.
Peut-être que ce sujet-là, vous vouliez l'aborder, n'entraînera pas la même réponse. C'est la réforme des rythmes scolaires qui a été très contestée par les syndicats d'enseignants, mais pas que, puisqu'il y a des collectifs qui sont montés de personnes, moi j'en ai reçu, qui ne sont pas du tout syndicalistes, qui ne sont même pas du tout de gauche, qui ont peur de donc, la réforme des rythmes scolaires qui revient, on va dire, à l'avant d'Arcos, c'est-à-dire 4 jours et demi, sauf que ce sera le mercredi. Et il y aura une partie du temps des élèves qui sera consacrée à des activités périscolaires.
Périéducatives, dans le cas précis, en complément du périscolaire, effectivement.
Voilà, donc périéducatives, et c'est surtout ça qui fait peur aux parents d'élèves et aux enseignants, c'est l'inégalité qui va se mettre en place, puisque c'est les municipalités qui devront pallier financièrement à ces activités
Pas seul, avec l'État.
Avec l'État.
250 millions d'euros pour cette année. Apportés par l'État pour se mettre en place ce périéducatif. Alors, on va commencer, et dans ce sujet-là, comme dans beaucoup d'autres, il ne faut jamais perdre de vue le point d'origine du débat. Le point d'origine, et là, je crois qu'on est sur le consensus, tout le monde s'accorde à dire que la semaine de 4 jours est une véritable catastrophe pour nos enfants. Et donc, ça fait déjà 4 ans, 4 ou 5 années, qu'un certain nombre d'enfants, il y a des enfants aujourd'hui qui ont fait toute leur primaire avec ces semaines de 4 jours. Donc ceux qui vont bien, qui ont des capacités naturelles, qui sont résistants, qui sont vifs, qui ont des familles, s'adapteront toujours plus ou moins. Mais dès qu'on a une petite fragilité, ça ne va pas. Donc, c'est une véritable catastrophe. En plus, dans un système éducatif dont on a fait l'évaluation et qui est, dans ses résultats, la France, un des moins bons d'Europe. Donc, on ne va pas arranger la situation. Donc, on n'oublie jamais, on ne perd jamais ça de vue. Donc, il est hors de question de rester à 4 jours. Bien. On peut restaurer comme avant, le samedi matin, sauf que les raisons qui ont conduit à supprimer le samedi matin, elles existent encore aujourd'hui.
Oui, c'est les familles séparées.
Voilà, exactement. Bon, c'est bien dommage, parce que le samedi matin, c'était un jour particulièrement intéressant, et tout le monde le dit, pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents, qui souvent, moi je me souviens être souvent allé chercher, plus ce jour-là encore que les autres, mes enfants à l'école le samedi. On prenait le temps, on discutait avec les autres parents, avec les instits. C'était vraiment un moment privilégié, puis les instits faisaient les choses. Bon. On ne peut plus, vu la configuration et les recompositions familiales. Donc, à partir de là, il n'y a plus qu'une solution, c'est le mercredi matin. Donc, on n'y échappe pas. Il faut déjà avoir... Enfin, si aujourd'hui, ceux qui contestent ou ceux qui ont des craintes légitimes, je ne pense pas qu'ils disent qu'il faut rester à la semaine de 4 jours. Enfin, on ne restera pas à la semaine de 4 jours. Ce n'est pas possible pour les gamins. D'ailleurs, il faudra également travailler sur l'année, parce qu'on peut pas faire. Si véritablement on fait cette réforme dans le sens de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'il faut avoir des rythmes annuels avec ces vacances d'été qui sont interminables. Bon, le ministre a pensé que s'il faisait les deux d'un coup, il avait tout le monde dans la rue. Voilà pourquoi il l'a pas fait, tout simplement. Hein. Mais la logique aurait voulu qu'il le fasse en même temps. Bien, donc on va avoir 4 jours et demi, et je pense que jusque là, on doit être 100% d'accord là-dessus. Ou alors il y a un problème.
Oui.
Non. Enfin, c'est après, c'est comment,
mais après,
comment
aussi,
ça,
je pense qu'ils
comment ça atterrit. Oui, dites-moi.
Je veux juste dire que le corps enseignant a eu l'impression de ne pas avoir été concerté. Les discussions ont eu lieu avec la FCPE qui fait énormément de débats, puisqu'ils ne seraient pas tant représentatifs des parents d'élèves. Et,
on peut toujours discuter plus. Ce sujet-là des rythmes, il est connu depuis des années. Alors, c'est peut-être dans la mise en forme que la discussion aurait peut-être plus importante.
C'est fait par un décret aussi.
Mais s'il y avait, dans tous les débats, chaque fois que ça ne va pas, et je peux me comporter de cette façon-là aussi, on commence à dire « Ah, mais c'est la méthode ». Quand on critique la méthode, ça veut dire qu'on n'est pas content sur le fond. Ça aurait été une méthode dictatoriale qui aurait satisfait tout le monde, on ne dirait pas qu'il y a un problème de méthode. Donc, on prétexte toujours la méthode pour attaquer le fond, en réalité. Bon, alors, donc, parlons du fond. Le fond de la mise en œuvre pose des problèmes. Il pose des problèmes aux instituteurs eux-mêmes. Il pose des problèmes, ils peuvent en poser aux parents, puis ils en posent aux collectivités locales qui sont chargées de mettre ça en place. Alors, est-ce que ça va augmenter les inégalités? Je suis pas sûr, puisqu'on
forcément,
va...
Forcément, toutes les communes n'ont pas les mêmes budgets.
Oui, mais actuellement, on remplace le mercredi matin où il n'y a rien d'organisé par qui que ce soit. Actuellement, les gamins sont libres le mercredi matin.
Oui, mais les inégalités territoriales, c'est-à-dire que
aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. Le mercredi matin, qu'est-ce qui se passe entre Besançon et un petit village de je ne sais où? C'est inégal, déjà.
Oui.
Donc là, ce sera moins inégal, puisque ce temps libre des 3 heures, aujourd'hui qui est le mercredi matin, qui va être réparti de la semaine, il y aura des activités qui n'existent pas aujourd'hui. On passe de zéro à quelque chose, et quelque chose qui est en partie financé par l'État.
Ce qui est dénoncé, c'est qu'un gamin qui vit dans une commune qui a des gros budgets aura des super activités, et puis un gamin qui vit dans une commune sans budget aura rien du tout.
C'est le
quoi.
Cas aujourd'hui, avec le mercredi matin. C'est le cas déjà aujourd'hui. Ça va être moins mal qu'aujourd'hui. Après, on peut discuter est-ce que c'est le mercredi matin, est-ce que c'est 3 fois, 2 fois 3 heures, ou 4 fois 1 heure et demie, 3 quarts d'heure, 4 fois 3 quarts d'heure, ou 2 fois 1 heure et demie. Mais il va y avoir des activités, un encadrement qui est censé être mieux que le périscolaire, c'est pour ça qu'on l'appelle le périéducatif, moins d'enfants, des compétences supérieures, bon, tout ça se mettra pas en place en un jour. Mais on ne peut pas dire que cette mesure est inégalitaire, puisque la précédente, il n'y avait rien du tout, donc c'était encore plus inégalitaire, il n'y avait rien. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est inégalitaire. Par contre, il y a des gros problèmes d'organisation. Et puis je comprends que les enseignants qui ont pris l'habitude d'être à 4 jours, eh ben, il va falloir qu'ils s'organisent maintenant le mercredi matin.
Il n'y a pas que les enseignants, aussi non, les personnels des communes
ça veut dire que ils ont un trajet en plus à faire dans la semaine, que le mercredi, si pour celles et ceux qui ont des enfants, il va falloir qu'ils se trouvent une garde. C'est compliqué, avec des salaires qui ne sont quand même pas très élevés pour les enseignants. Donc moi, je comprends tout à fait leurs difficultés, leur attente.
Et qui n'ont pas été réévalués depuis au moins 3 ans.
Oui. Donc ça c'est une vraie difficulté. Il commence à 1500 euros, je crois, voire un peu moins. Bon, voilà. Donc, c'est quand même pas simple pour eux. Bon, les parents, dans l'ensemble, l'acceptent. Et puis, pour les collectivités locales, c'est vrai que c'est une organisation. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a un maire du petit village ici qui m'appelle et puis qui me dit, il y a deux mois, hein, oh là là, c'est la catastrophe, comment on va faire? Alors, il me dit, je ne vais pas trouver le personnel. Deux, je ne sais pas comment je vais m'organiser avec les bus, etc. Bon. Donc, j'ai tenu compte de ce qu'il m'avait dit. Et quand j'ai rencontré Vincent Payon... Alors, il me dit, oui, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était... On commence un quart d'heure plus tard le matin. On termine un quart d'heure plus tôt le soir. Donc, on gagne déjà une demi-heure. Et on se donne un quart d'heure de plus à midi pour avoir du temps pour la cantine. Et on ne fait pas de périodicatif. Parce que ça pourrait être ça. On peut rentrer comme ça dans la réforme, hein, d'ailleurs, sans faire de périodicatif. Simplement, on transfère les heures du mercredi sur 2, 3, 4 jours de la semaine. Sans faire de périodicatif. C'est relativement simple. Il faut juste que les transports... Et puis, je l'ai vu la semaine dernière. Je dis alors c'est toujours ah non c'est réglé. Ah bon, je dis qu'est-ce que t'as fait? Non bah c'est réglé, ça y est, on va terminer une demi-heure plus tôt le soir, on commencera le périscolaire une demi-heure plus tôt au lieu de le commencer à 5h, il le commencera à 4h30. On a fait ça les trois communes qui ont le même transport scolaire, Parsenay, Foucheran et Trépeau. Donc on a le même transport scolaire et puis voilà, et puis on se garde quand même un quart d'heure à midi pour ça y est, c'est réglé. Comme quoi, et je pense qu'ils en seront satisfaits. Autrement dit, les gamins, ils vont avoir une demi-heure de périscolaire sur les 4 jours en plus, à la place du mercredi où ils avaient zéro. Donc en quoi ça va les défavoriser? Au contraire, ça va être un plus. Donc voilà.
Très bien. Bon, d'habitude l'émission est un peu plus rigolote, hein, mais j'ai rien eu le temps de préparer, à part une petite séquence. Je vais vous prendre en photo. Vous êtes d'accord?
Pour la radio, c'est pratique ça.
Mais oui, c'est ça qui est génial. Je vais vous prendre en photo, puis après on va discuter de ça, du rapport à l'image que vous avez depuis que vous êtes député. Il faut juste que je retrouve l'application appareil photo sur mon téléphone de capitaliste, voilà. Hop, je vous prends photo, avec la magnifique bibliothèque de Radio Bip derrière. Voilà. Donc cette photo, je la posterai sur le blog de l'émission et sur les réseaux sociaux. C'est l'émission qui n'a pas de nom. Je vais vous la montrer et puis on va en discuter. Puisque maintenant que vous êtes député, vous vous faites beaucoup prendre en photo quand même.
Je suis pas sûr que ce soit plus qu'avant. Parce que finalement, vu la place que j'occupais dans cette ville de Besançon, j'étais assez souvent exposé. Et à Paris, je suis un député parmi 577. Donc de certains côtés, c'est pas toujours le cas.
Très bien. Alors, voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à la pose que vous avez prise quand je vous ai pris en photo?
Non, j'essaie de sourire simplement.
Voilà, oui, vous souriez, vous n'ouvrez pas la bouche totalement. Non, je vous ai vu avec des photos.
Alors,
je
fais en général, oui, c'est plus franc comme sourire.
Alors pourquoi? Parce que vous vous amusez pas avec moi.
Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps.
L'image en politique, c'est,
ah ouais,
c'est important.
Bien sûr.
Vous forcez, par exemple, là, pendant l'émission, il y a des choses que vous vous êtes senti obligé de faire et que vous n'auriez pas fait si on n'était pas en train d'enregistrer.
Ah, mais. Quand je m'adresse à des auditeurs quand vous me posez des questions. Donc, la moindre des choses quand on s'adresse à quelqu'un, c'est de prendre en compte le récepteur. Donc forcément, quand je vous réponds, je pense que je m'adresse à des milliers de bisontins. Donc je fais comme si je m'adressais à des milliers de bisontins. Voilà, donc forcément qu'on en tient compte. Il y a toujours une interaction entre l'émetteur et le récepteur.
Et vous ne pensez pas que l'image en politique est trop importante?
Ça dépend quelle image, ça dépend. Bah, si elle est fausse, elle est trop importante. Si elle est juste, elle n'est pas importante.
Elle est toujours fausse, non?
Non.
Puisqu'elle est publique, on se force.
Mais non, mais non. Non, on se force. Je veux dire, même, attends, j'espère bien que quand on est en couple, quand on est avec ses enfants, on se force aussi à être agréable vis-à-vis des autres. Enfin, quand on a les moyens de le faire. Parfois, quand on déprime, c'est trop dur de le faire. Mais enfin, moi, c'est comme ça. Je pense que l'autre est un stimulant, toujours, même dans la vie privée.
Très bien. Bon, on l'a dépassé un peu, mais je peux encore vous poser
une
question.
Ah oui, volontiers.
Parce que vous êtes écologiste, vous êtes député, donc vous pouvez impulser des mouvements, proposer des lois. Et je me disais, bon, une grosse part de la pollution quand même provient des émissions de gaz d'échappement ou autre. Et les transports publics gratuits, ce ne serait pas une solution?
Ça fait des années que ce débat-là a cours. En théorie, c'est plutôt séduisant. En pratique, ça soulève plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est celui du coût, déjà. Par exemple, à Besançon, la part qui reste à la collectivité est de 17% du transport. Le reste, c'est les subventions. Voilà, donc il y a un problème de coût. Donc si on fait cette dépense-là, on en supprime ailleurs. Ou alors on augmente les impôts. Bon voilà, est-ce qu'on peut augmenter les impôts locaux aujourd'hui? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut diminuer les dépenses ailleurs? Pourquoi pas? Faisons des suggestions. Donc un, il y a le problème du coût. Deux, il y a toujours ce débat, et c'est vrai sur tous les sujets, de la responsabilisation des uns et des autres. C'est vrai, qu'est-ce qu'on doit mettre gratuit? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre gratuit? C'est évident que l'école doit être gratuite. Voilà. Il y a des sujets comme ça.
Après, on dit gratuit, ce n'est pas vraiment gratuit, puisque tout le monde le paye à
son niveau dans les impôts. Oui, enfin mutualisé. Vous ne payez pas en tant qu'usager, vous payez en tant que citoyen imposable. Je crois qu'il y a une expérience en France, oui, ça doit être Châteauroux, Châtellerault.
Et il y a aussi une commune du Sud.
Les expériences qui existent sont des expériences quand même qui sont beaucoup moins importantes que Besançon, c'est-à-dire que même Châtellerault, Châteauroux, je ne sais plus, il n'y a pas un réseau de transport aussi développé qu'il y a à Besançon. Besançon, c'est
très important. La question en tant que député, à quelque
nationalement,
chose national,
qui
réduirait les inégalités territoriales.
Oui, alors vous supposez que c'est l'État qui va donner aux collectivités l'argent pour la gratuité. Que c'est parce qu'actuellement, c'est des services qui sont assurés complètement par les collectivités. Aujourd'hui, l'État ne finance pas les transports publics de Besançon.
Oui.
C'est la collectivité qui les finance. Donc, quand vous me dites gratuit, moi, je pense au budget de Besançon. Je ne pense pas au budget de l'État. Ou alors, il faudrait que l'État apporte... Non, mais dans la situation, c'est impossible d'imaginer ça. C'est impossible. On est en train de faire des réductions partout et on va augmenter alors, les impôts ou une contribution, une subvention. Voilà. Puis je ne suis pas sûr que ce soit totalement la bonne solution. Vous ne payez quand même que 17% de votre ticket de bus quand vous prenez le bus. Ce n'est quand même pas beaucoup. Quoi. C'est pas beaucoup.
Ouais, moi, ça me fait cher, moi, ton petit budget.
oui, mais enfin, par rapport à une voiture, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins. Et puis, il y a cette question de la responsabilisation. Je ne sais pas ce qui se passerait si le transport était gratuit au niveau de la responsabilité des uns et des autres. En même temps, on ferait des économies parce qu'on n'aurait pas de contrôleur, on aurait... Bon, le débat existe. Hein. Voilà, j'essaie simplement de pointer les difficultés. Évidemment, j'aurais envie de dire OK, banco. mais bon.
Moi, j'avais envie de faire un peu de lobbying.
Vous avez bien fait.
Voilà, on va se quitter, hein, parce que c'est. Oula, oui, on est largement en dehors des clous.
Ouais, de même façon, sans blaguer, on ne s'ennuie pas, vous voyez.
Ben voilà, merci, monsieur Alauzet. Monsieur
merci
le
à vous. Merci à vous.
J'aurais pu vous appeler Riquet, mais je vous appelle monsieur le député.
Ça ouais.
Peut... C'est plus normal. Vous voulez encore dire un petit mot, la tradition
non.
du dernier mot de l'émission qui n'est qu'un seul mot et qui
je pense jamais au dernier mot. Non, moi je suis content de parler de ce que je fais, de la société. Donc j'étais très content de venir ici avec vous, passer un moment.
Et puis si jamais, n'hésitez pas à penser à Radio Bip hein, pour votre utilisation de la réserve parlementaire, qu'on ait un peu plus d'employés.